6 octobre 2015, la justice européenne invalide ce que l'on appelle le Safe Harbor. C'est un accord très controversé qui concerne les données personnelles. Nous vivons une époque émaillée d'inquiétudes qui peuvent être très contradictoires. Elles sont toutes légitimes. D'un côté, on veut pouvoir se prémunir du terrorisme. De l'autre, on veut s'assurer de la confidentialité de nos données personnelles ou des données de nos clients. En l'absence de Safe Harbor qui apporte une réponse, que va-t-il se passer ? 2013, affaire Snowden, NSA, divulgation d'informations, souvenez-vous. Conséquence nette de cette affaire, les entreprises perdent confiance dans les fournisseurs américains. Elles les soupçonnent tout simplement de collusion avec les autorités américaines et de leur fournir en toute opacité des données personnelles, quel que soit le lieu où ces données sont stockées. Dans le même temps, il existe un accord nommé Safe Harbor, signé entre la Commission européenne et les autorités américaines depuis 2001, qui permet à une entreprise de certifier qu'elle obéit à la législation en demandant et obtenant une autorisation à chaque fois qu'elle souhaite transférer des données personnelles depuis l'Union européenne vers les États-Unis. Alors, disparition du Safe Harbor, est-ce que nous sommes devant un vide juridique ? Quelles sont les solutions pour garantir la confiance autour de la donnée personnelle ? Posons la question à Marc Mossé. Marc, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft.
C'est vrai.
Au-delà de ce rôle que vous occupez dans une grande entreprise américaine, vous prenez fréquemment la parole sur des sujets de la transformation numérique, des enjeux de celle-ci sur les droits de l'homme, par exemple, ou sur les questions de la donnée privée. J'ai une première question pour vous qui concerne le Safe Harbor. Il a disparu, il a été annulé. Est-ce que nous sommes aujourd'hui devant un vide juridique ?
C'est une excellente question, Isabelle. Non, on n'est pas devant un vide juridique. D'abord parce qu'il y a une négociation entre l'Union européenne et les États-Unis qui a donné lieu à ce qu'on a appelé le Privacy Shield, qui est donc le remplacement du Safe Harbor, et c'est donc un accord qui est en train d'être finalisé. Et par ailleurs, il faut savoir que les CNILs européennes ont admis que les entreprises de cloud qui ont intégré dans leur contrat avant l'annulation du Safe Harbor ce qu'on appelle les clauses contractuelles types, les model clauses, ou bien bénéficient des Binding Corporate Rules, les BCR, dans ce cas-là, le transfert des données est parfaitement possible. Et il se trouve que Microsoft, qui travaille depuis longtemps sur la question de la confiance dans le numérique, de la confiance dans la transformation numérique, à intégrer ces clauses contractuelles types dans ces contrats de cloud, de sorte que les clients bénéficient de toutes les garanties nécessaires en matière de protection et de sécurité de leurs données. Donc c'est quelque chose que nous avons fait depuis longtemps, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme apportant les garanties nécessaires.
Je vous remercie. Ça me fait venir une seconde question. On a coutume d'entendre que les technologies vont très vite à se développer, beaucoup plus vite que nous ne sommes capables de développer les lois qui les accompagnent. Est-ce que vous diriez que nous sommes encore et toujours à la remorque juridique sur les sujets de la transformation numérique ?
C'est une question classique, Isabelle, mais c'est une question compliquée. Est-ce que le droit va aussi vite que les faits ? Est-ce qu'il va aussi vite que la technologie ? Deux éléments de réponse ici. Le premier, c'est que on n'est pas en retard et on n'est pas en décalage dès lors qu'on est sur les principes. Et la question des droits fondamentaux, la question de la protection des données, la question de la vie privée, la question de l'inviolabilité du domicile, ce sont des questions de principe. Et elles sont intemporelles et elles ne sont pas affectées par l'évolution des technologies et il ne faut pas qu'elles le soient. Et puis après, il y a la mise en œuvre de ces principes au jour le jour, avec les évolutions techniques, avec les nouveaux usages. Et de ce point de vue-là, ce qui est tout à fait essentiel, c'est qu'il y ait un dialogue constant entre les États, les gouvernements, les organisations professionnelles, les entreprises, les régulateurs, les citoyens et les ONG. Et ce dialogue permet de faire vivre ces principes. J'ai envie de vous dire d'une certaine façon qu'il faut à la fois que l'innovation soit responsable, c'est-à-dire que les entreprises prennent leurs responsabilités pour faire en sorte que leurs innovations respectent ces principes et même aillent au-delà en rencontrant l'aspiration des consommateurs ou des citoyens. Et il faut que les régulations soient innovantes. Et c'est ce dialogue entre l'innovation responsable et les régulations innovantes qui permettra d'établir un véritable cadre de confiance, donc des principes forts, intemporels, et une agilité dans la régulation pour permettre l'innovation.
Justement, Marc, au sujet de la responsabilité, j'ai une dernière question. Elle concerne cette fois la souveraineté. Microsoft s'oppose au gouvernement américain, et depuis plusieurs mois, et refuse de délivrer des données qui concernent l'un de ses clients. Ces données sont situées en Europe. Que signifie ce contentieux ?
Isabelle, c'est une question de principe, en fait. C'est une vraie question de principe. Et il se trouve que dans cette affaire-là, le gouvernement américain nous a demandé l'accès aux données d'un de nos clients qui sont stockées à Dublin, donc en Europe. Et nous avons refusé parce que la demande n'était pas faite dans les formes que nous considérons respectueuses des principes juridiques, des traités internationaux. Et dans ce contentieux qui est actuellement en appel, devant la Cour d'appel de New York, nous avons posé effectivement une question de principe. Nous avons été soutenus par plus de 50 organisations, des ONG, des associations professionnelles, des professeurs de droit, des parlementaires européens, dont le rapporteur du projet de règlement sur les données personnelles, le gouvernement irlandais, des journaux, Reporters sans frontières, parce que ce sont là des questions essentielles. Et si je devais le dire d'un mot, quel est l'enjeu ? C'est à la fois un enjeu de souveraineté, parce que c'est le gouvernement irlandais et sont ses territoires qui est concerné, et parce que s'il s'agissait d'un domicile physique, personne n'accepterait, il ne viendrait même pas à l'idée du gouvernement américain, d'aller saisir des données dans un domicile physique à l'étranger. Eh bien, les données qui sont dans un domicile virtuel, d'une certaine façon, doivent bénéficier du même niveau de protection. C'est donc à la fois une question pour la souveraineté du gouvernement et de l'État irlandais, et c'est une question de protection des données personnelles, d'inviolabilité du domicile. Et donc, ce sont là des questions de principe. Et c'est important, encore une fois, pour la confiance, que ces règles-là soient clairement dites et établies.
Je vous remercie, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup, Marc.
Merci beaucoup, Isabelle.
Si la caricature laisse croire que les États-Unis inventent les technologies d'un côté quand l'Europe invente des lois, on comprend surtout en écoutant Marc Mossé que c'est l'entreprise qui crée les technologies à côté de celles qui utilisent ces technologies, à côté de ceux qui régulent autour de ces technologies, qui travaillant ensemble, vont être capables de créer le contrat et de créer les conditions de la confiance de cette transformation numérique.